Bonsoir et bienvenue pour ce débat sur l'art et la crise du New Deal aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à excuser l'absence d'Olivier Poivre d'Arvor, qui est retenu à l'étranger et qui ne pourra pas être des nôtres ce soir. Et ensuite, je tiens à remercier nos invités d'avoir accepté cette invitation de la Bibliothèque publique d'information. Et je remercie tout particulièrement Jean-Marie Durand, qui va donc animer ce débat, et je lui cède la parole.
Bonsoir, ça marche, oui. Merci d'être présent ce soir pour cette rencontre sur l'art et la crise. Je vous présente, avant d'introduire cette discussion, nos invités, Bernard Eisenschitz, à ma droite, qui est historien, critique du cinéma, directeur de restauration de beaucoup de films, fondateur de la revue Cinéma aussi, et même comédien, parce que vous avez eu des rôles dans des films marquants, comme La Maman la Putain de Jean Eustache, par exemple, mais aussi chez Moulet, Yossi Eliani, enfin, des grands cinéastes qu'on aime beaucoup. Et vous avez vos dernières publications et Fritz Lang au travail. Et vous, alors, il se trouve que vous coordonnez, enfin, vous organisez dans le cadre du cinéma du réel, qui commence là dans 10 jours. Deux soirées, deux projections, débats sur lesquels on pourra venir. À votre droite, Alice Béja, qui est historienne, spécialiste de littérature américaine, qui travaille à la revue Esprit, comme cette rédaction, et qui a notamment coordonné un dossier assez passionnant sur le sujet d'aujourd'hui, qui est paru il y a plusieurs mois, je ne sais plus. Ah oui, déjà quand même. En juin 2012, La crise, comment l'a raconté, qui est un dossier assez foisonnant sur justement la question qui nous intéresse ce soir, sur laquelle on va revenir. À sa droite, Frédéric Martel, producteur de France Culture, de l'émission Soft Power, le magazine des industries créatives, mais également directeur de recherche à l'IRIS, fondateur de nonfiction.fr. Il a un CV assez impressionnant, on ne sait pas où s'arrêter parce qu'il fait trop de choses. Il a publié beaucoup de livres, dont un livre qui sera l'un des livres peut-être de référence aussi ce soir, de La culture d'Amérique, paru déjà en 2006, et puis plus tard, Mainstream, enquête sur la guerre globale et la culture des médias, en 2010, J'aime pas le sarkozisme culturel, qui était un petit pamphlet assez bien lancé sur la politique culturelle sous Sarkozy, qui était paru l'année dernière, et il vient de publier Global Gay, qui est sorti là ces jours-ci, Comment la révolution gay change le monde. Et Stanislas Nordet, enfin, notre autre, metteur en scène, comédien, pareil, une sorte de long parcours, donc on ne va pas tout résumer. Il se trouve que sa dernière pièce a été très remarquée, là, a été mise en scène au Théâtre de la Colline. Vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Tristesse animal noir, une pièce d'un auteur allemand contemporain, Anja Ehling, qui a été une pièce vraiment très remarquée. Vous êtes, disons, pour le dire très vite et simple, peut-être caricatural, hein, disons, un metteur en scène, disons, défenseur, disons, d'un théâtre de combat, un théâtre citoyen, comme vous l'avez dit vous-même. Et vous vous intéressez beaucoup à la transmission, à la question justement du théâtre contemporain. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui faire des spectacles dans un contexte politique? Et bon, on pourra venir avec vous sur tout ça. Alors peut-être juste préciser quand même en amont, pour lancer la conversation. C'est vrai que l'art et la crise sur le papier, ça paraît quand même un peu un sujet un peu, j'allais dire, un peu lourd. En tout cas, un peu ambitieux, un peu vaste, voire même ambivalent. Parce que le problème de l'art et la crise, c'est de savoir comment on circonscrit le sujet. Parce que l'art et la crise, la conjonction peut-être est un symptôme un peu bizarre. C'est qu'on aurait très bien pu aussi intituler cette rencontre l'art contre la crise, ou l'art en dépit de la crise, ou l'art sous la crise, ou au-dessus, je ne sais pas, ou dans la crise, ou face à la crise. Bon, tout bref, on voit bien que, si vous voulez, il y a des grammaires différentes possibles pour évoquer cette discussion. Et c'est tout le problème, finalement, c'est que toutes ces grammaires nous intéressent, je pense, ce soir. Toutes ces conjonctions, je pense, sont au cœur de notre discussion. L'autre ambiguïté, finalement, peut-être, de cet intitulé, c'est que, justement, il est difficile de définir le terme crise lui-même. De quelle crise parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'une crise financière, d'une crise politique, d'une crise morale, d'une crise institutionnelle, d'une crise économique? Autant de sujets possibles aussi. Donc on voit bien que la question, c'est de savoir finalement quel type de crise agit sur le travail de création lui-même, et surtout quels sont finalement les effets qui peuvent être ces multiples, disséminés de cette crise sur à la fois les modes de production des œuvres elles-mêmes et sur leur contenu. Qu'est-ce que les œuvres nous disent aujourd'hui de la crise? Et c'est vrai que c'est assez frappant de se dire qu'aujourd'hui, si on a si on fait un focus assez, disons, large sur le monde, disons, de l'art en général, on a l'impression que la crise est à la fois partout et nulle part. C'est-à-dire que beaucoup d'œuvres en portent la trace, bien sûr, parfois de manière un peu oblique, jamais très frontale, mais elle est là. Et puis parfois, on dit aussi qu'elle est complètement négligée. Donc toutes ces questions, c'est vrai que sont des questions justement à éclairer peut-être ce soir. Alors, vu que, bon, j'ai l'air de dire que tout ça est un peu complexe et qu'il y a plein de questions qui se posent, disons qu'on essaie de circonscrire, enfin, en tout cas, de définir un peu deux enjeux forts, peut-être, autour de cette question. C'est d'une part d'arriver à définir quels sont les types de représentations esthétiques aujourd'hui qui se déploient sur la crise, et avec un regard important de l'histoire, puisque précisément, le New Deal, en tout cas à l'époque de la Grande Dépression, notamment américaine, a été un moment assez particulier, assez fort, à la fois d'un regard artistique sur la crise et en même temps dans un double geste, j'allais dire simultané, d'une politique publique aussi forte. Finalement, ça a été l'occasion de définir à la fois un geste créatif et politique. Et donc, c'est intéressant de voir aussi en regard aujourd'hui qu'est-ce que le New Deal peut-être, non pas nous apprend, mais en tout cas nous donne peut-être comme possibilité d'imaginer, je ne sais pas si c'est un avenir, mais en tout cas des pistes de réflexion. En tout cas, ce qui me semble aussi important de dire, et j'en finirai là, c'est que je vois, en disant tout ça, je me rends compte que j'ai l'air de dire que tout est un peu compliqué, mais je le pense vraiment, dans le sens où, si vous voulez, c'est difficile, à mon avis, aujourd'hui, là, de tirer des grands enseignements assez simplistes sur la relation que l'art et la crise entretiennent aujourd'hui. On voit bien à la fois qu'on est dans une période, évidemment, à la fois compliquée, transition. On parle aujourd'hui de transition numérique, donc vous savez, dans les petits culturels, la mission de Pierre Lescure, dont vous avez entendu parler, Culture Acte 2, est un symptôme de ça. On voit bien qu'on est dans la tentative d'inventer un nouveau mode de politique culturelle, et qui est évidemment encore très incertain, et qui pèse évidemment aujourd'hui sur le travail quotidien des artistes en France largement, et donc, auquel personne n'échappe, je pense. Voilà, et d'autre part, autre, j'allais dire, réserve, en tout cas prudence à avoir, c'est, je pense qu'il est compliqué d'affirmer peut-être de manière trop simpliste à nouveau qu'aujourd'hui les artistes négligent complètement la thématique de la crise comme si elle était inexistante. Il me semble qu'elle est présente dans beaucoup d'œuvres, à la fois dans le roman français contemporain, dans le cinéma aussi, c'est pas non plus complètement anodin. Par exemple, qu'au César, récemment, le premier film français, le film qui a été récompensé de. Meilleure première œuvre, je crois, c'est un film qui s'appelle Louise Wimmer, d'un jeune cinéaste qui s'appelle Cyril Médéguin, qui vraiment, là, pour le coup, se confronte directement, frontalement à la question de la crise. Donc, tout ça pour dire que c'est un sujet, un exemple parmi beaucoup d'autres. Voilà. Et peut-être aussi, ce qu'on constate aujourd'hui, mais ça, on pourra en discuter, c'est que peut-être que le règne de ce qu'on a appelé l'hyperspectacle, du spectaculaire culturel, qui a été peut-être un mode comme ça, esthétique assez fort, assez dominant, dans les années 90-2000 peut-être, et peut-être lui-même en train de basculer, de se renverser. Et qu'aujourd'hui, notamment, c'est assez frappant, je pense, dans le monde des arts plastiques, par exemple, on est plus aujourd'hui face à des lignes esthétiques plus minimales, peut-être plus radicales aussi, mais plus minimales, en tout cas, loin de ce souci comme ça du spectaculaire. Voilà, autant de pistes possibles qu'on pourra évoquer ce soir. Et mon introduction était un peu trop longue, peut-être un peu trop large, mais c'est la règle. Je vais donc laisser la parole à Bernard Eisenschitz pour peut-être justement lui-même nous cadrer un peu la discussion, puisque vous avez beaucoup travaillé sur la période de la Grande Dépression américaine, et notamment sur ses modes de représentation.
Oui, du coup, ça marche ?
Ouais.
Bon. Du coup, je vais être plus... je vais parler plus en historien qu'en historien du cinéma, parce que pourquoi ? J'expliquerai à la fin pourquoi je parle moins en historien du cinéma ici. Dans 10 jours, ça sera différent. Bon, la question qui se posait pour moi, c'était, bon, en effet, le New Deal et les artistes. Je parle en historien, donc je m'en excuse auprès de mes deux voisins qui, eux aussi, mais je pense que nous aurons tous les trois des choses différentes à dire, que le sujet est en effet complexe et assez riche pour ça. Bon, la question qui se pose dans les années 30 est peut-être est plus qu'une question d'art, puisque l'art existait aux États-Unis, une question de culture. Et la culture est une notion nouvelle à l'époque. La culture était encore définie comme l'assemblage des arts, les arts plus la littérature, et l'idée que la culture pouvait être autre chose, pouvait être ce qu'est la vie en dehors du travail, en dehors de l'intimité, toutes les activités qui échappe à ces deux coordonnées relève de la culture est encore une idée assez neuve, disons, qui a pu être développée essentiellement par des progressistes, que ce soit, je ne sais pas, Romain Rolland à la fin du 19e siècle, Bogdanov, Gramsci, Lunacharsky, Lénine, voire pour poursuivre jusque dans les années 30, Aragon avec sa maison de la culture qui précède le Front populaire. Donc l'idée de culture n'est pas une idée de... C'est autre chose que l'idée des arts plus la littérature. Et aux États-Unis, c'est peut-être ça le grand phénomène des années 30, c'est la découverte que les États-Unis ont une mémoire, qu'il y a une mémoire américaine. Il y a un livre, il y a une vingtaine d'années, on a publié en France un livre de Knut Hamsun qui s'appelle « De la culture aux États-Unis ». Et c'était une série de conférences de 1889. Le livre a attendu un siècle pour être publié. Et en vérité, le titre original norvégien du livre, c'était « De la vie spirituelle aux États-Unis ». Par ailleurs, c'est un livre absolument massacreur pour cette culture artistique des États-Unis, qui est donnée comme à la fois mimétique et amateur. C'est un livre, d'ailleurs, d'une assez hystérique et réactionnaire. Et la situation, disons, a peut-être peu changé, si nous faisons abstraction de la position de Knut Hamsun, quand on arrive à la fin des années 20. Il y a une autre histoire qui est l'histoire de l'exil, de l'après-guerre, de 17-18, bien entendu, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est 1929-30, cette mutation provoquée par la crise, ce sentiment que tout ce qui a précédé est sur le point de s'effondrer, et en même temps, comment faire quand on touche le fond. C'est peut-être là qu'il se passe des choses, alors pour des raisons totalement différentes qui peuvent être... La recherche que j'avais faite sur les années 30 tenait à une recherche biographique sur le cinéaste Nicolas Ray. Nicolas Ray qui était un grand dépressif. Et ce que m'ont expliqué ses camarades, c'est que Ray n'avait jamais été aussi heureux que pendant la crise. Au moment où il n'y avait pas d'argent, où il n'y avait pas à manger, où il n'y avait rien, où on habitait dans un loft à 15 pour monter des pièces pour lesquels on trimballait des décors dans le métro, c'était le moment le plus riche de sa vie, le moment où il y a eu le moins d'angoisse. Et en effet, je retrouve une citation d'un écrivain immigré aux États-Unis, d'origine balkanique, qui dit dans un livre qui s'appelle « My America », bon, c'est un titre, c'est un mot qui revient beaucoup dans les titres de l'époque. Il écrit à la fin de 1931, il arrive à New York et il dit « Le pays est de nouveau vivant, douloureusement mais vivant », ce qui pour moi, quand je me souviens de la période mortelle de la prospérité, est merveilleux. Voilà, donc il y a cet aspect, il va y avoir dans ces années cette découverte du pays. J'ai retrouvé, vu il y a 40 ans, un film qui m'avait beaucoup impressionné, un documentaire de Wilhelm Schulzkeil, producteur depuis, qui a produit les derniers films de Houston, comme The Dead ou Au-dessous du volcan. Et donc il a fait ce film en 77. Il a pu interroger encore la plupart des témoins. Et l'un des participants au projet de photo, Russell Lee, lui dit, à l'époque, les gens ne savaient rien aux États-Unis, les gens ne savaient rien de ce qui se passait hors de leur région immédiate. Et c'est ça qu'on a commencé à découvrir. Donc voilà, c'était ça, c'est ça le moment fort des années 30, cette découverte d'une mémoire qui se prend des formes différentes. Alors je précède un peu la période du New Deal et de la politique culturelle du New Deal, pour ne pas empiéter, mais il y a un militantisme assez fort de toutes parts. Enfin, pourquoi est-ce que les gens se sentent proches du Parti communiste? Non pas parce que le Parti communiste, à peu près tout le monde se sent proche du Parti communiste, non pas à cause de la politique assez risible d'un Parti communiste totalement minoritaire et complètement et aligné aveuglément sur la politique soviétique. C'est pas le parti, c'est pas la tête du parti qui impressionne les gens, c'est le militantisme des communistes. Ce sont eux qui, me racontait-on, vont prendre les gens qui n'ont pas d'argent et vont les amener chercher un chèque d'entraide, d'aide. Ce sont eux qui occupent les épiceries et font des dettes, et ainsi de suite. C'est un moment où la légalité n'existe plus pour les communistes, et c'est bien comme ça, et c'est ce qu'on reconnaît chez eux, c'est leur action. Et cette action peut avoir des formes, évidemment, dans le théâtre, militantisme, dans la musique, recherche d'une musique typiquement américaine. Chez les écrivains, besoin d'aller sur le terrain. Alors, des écrivains comme John Howard Lawson, plus connu des scénaristes communistes d'Hollywood, Samuel Hornitz, deux des futurs 10 de Hollywood, John Dos Passos, Theodore Dreiser, vont à Harlan County, dans le Kentucky, pour faire la découverte des conditions de vie des mineurs. Bon, et la peinture est influencée par les fresques mexicaines de Diego Rivera, de Roscoe. Et bon, alors, une anecdote, j'espère que vous ne l'avez pas prévue. Leslie Fiedler cite un manifeste de 1932, donc l'année de la campagne électorale présidentielle. Et ce manifeste, donc, c'est la première fois qu'on voit le mot que je trouve, il y en a certainement d'autres, mais c'est la première fois que je vois un manifeste qui s'appelle « La culture en crise ». 1932, et il est signé par plus de 50 écrivains, parmi lesquels, je cite les noms qui vous disent quelque chose, Edmund Wilson, Sherwood Anderson, Lincoln Stephens, qui avait été un des premiers à se rendre en Union soviétique, Langston Hughes, le poète noir, Erskine Caldwell, John Dos Passos, et qui ont été rejoints par d'autres, Catherine Ann Porter, James T. Farrell, l'auteur de Studs Lonigan, Dashiell Hammett, Richard Wright, auteur d'un des premiers romans sur la vie des Noirs, Theodore Dreiser, Ernest Hemingway. Et que demandent ces écrivains, ces 50, 60 écrivains? À quoi appellent-ils ces 60 écrivains en 1932? Ils appellent, l'année où Roosevelt va triompher de Hoover, ils s'engagent en faveur des deux candidats communistes à la présidence et à la vice-présidence, donc William Z. Foster et le noir James W. Ford. Voilà, donc il y a une incompréhension durable des intellectuels par rapport à l'action de Roosevelt. Cette incompréhension continue au cours des années. En 1936, même chose, soutien massif des écrivains aux candidats socialistes qui s'opposent à Roosevelt. En 1940, même chose, Joseph Losey raconte qu'il a préféré voter pour Wilkie plutôt que pour Roosevelt, alors que Wilkie avait un programme assez proche, etc. Donc voilà, c'était cette étrange relation entre les intellectuels et ce que Roosevelt représentait et a pu apporter. Relation, par exemple, la première pièce montée par Nicolas, je vais dépasser mon temps. La première pièce montée par Elia Kazan et interprétée par Nicolas Ray, auquel s'est joint peu après Martin Ritt, autre cinéaste qui lui est resté un cinéaste militant jusqu'à la fin de ses jours, cinéaste pro-syndicaliste, était une pièce qui dénonçait une des premières initiatives de Roosevelt, les CCC camps, qui était un endroit où on faisait travailler les jeunes. Pour leur trouver du travail, pour leur donner du travail, on les mettait dans des camps, mais ces camps étaient dirigés par des militaires. Donc la pièce dénonçait comme une forme de pré-fascisme les premières initiatives rooseveltiennes. Par ailleurs, une autre marge des partisans de Roosevelt était des gens de droite, pour qui Roosevelt représentait une sorte de Mussolini américain. Plus bienveillant que Mussolini, ou une sorte de Hitler qui ne serait pas antisémite. Donc Hitler était loué à l'exception de son militantisme antisémite ou de son action antisémite. Et en revanche, Mussolini fascinait pas mal les Américains à l'époque, et les actualités dirigées par William Randolph Hearst, dont on verra des exemples ici dans 10 jours, à la fin de l'année 1934, reconnaissait comme homme de l'année Roosevelt, et Hearst produisait lui-même un film qui s'appelle Gabriel Over the White House, qui montre un président qui règle les problèmes, donc en 1934 aussi, un président qui règle les problèmes du pays avec l'armée. Et à coup de fusil, donc comme ce qu'avait fait, en revanche, ce qu'avait fait le prédécesseur Hoover. Bon. Je voudrais dire, bon, ben, je vais terminer puisque mes camarades vont enchaîner, et je laisse tomber la deuxième partie, qu'un des aspects intéressants de la présidence de Roosevelt, je ne parlerai donc pas de sa politique culturelle, des projets culturels de la WPA, de la Works Progress Administration, sous la direction de Hopkins, des quatre grands projets culturels qui ont été lancés, qui étaient à la fois des projets culturels et des projets économiques, mais ça, je laisse mes voisins en parler. Une des choses importantes chez Roosevelt était l'idée d'attitude documentaire, c'est-à-dire une attitude documentaire qui était liée à la fois au souci personnel de Roosevelt de prendre des cas concrets, au lieu de parler politique en général, de prendre des cas concrets. Bon, ce sont les fameuses conversations au coin du feu à la radio, où il raconte, en général, il ne fait pas d'appel, d'appel pour une politique générale, mais il raconte, j'ai connu un épicier qui, etc. Et ces choses-là, il se faisait renseigner, Roosevelt se faisait renseigner par les employés de ces différents bureaux, des différents bureaux qu'il créait pour court-circuiter un congrès qui n'était pas automatiquement favorable. Et cette attitude documentaire s'est reflétée, c'est à la fois une attitude documentaire et une première utilisation des médias, une attitude documentaire qui s'est reflétée dans toute la politique culturelle de l'époque, c'est-à-dire essentiellement, ce qui est le mieux connu ici, ce qui est le mieux connu aujourd'hui, c'est la photo documentaire qui dépendait du ministère de l'Agriculture, l'inventaire des États-Unis par la photo documentaire, mais on connaît aussi l'inventaire musical, ethnographique fait par les Lomax auxquels se sont joints Nicolas Ray et Elia Kazan à leur début. Dans le théâtre, je n'ai pas parlé du théâtre militant parce qu'on n'a pas le temps, mais dans le théâtre, il y a, au-delà du cabaret politique, il y a une tentative fédérale de journal, de living newspaper, d'un journal vivant qui représente, qui ne fait pas long feu, qui dure 3 ans. Le théâtre fédéral dure 3 ans et le living newspaper dure 4. Je crois qu'il y a 4 spectacles, en général mis en scène par Lozay. Donc le premier est sur l'Éthiopie. Sujet brûlant, donc interdit après une représentation. Tripoli Plowed Under, donc, qui est un sujet sur la charrue, donc sur la situation des paysans. Le troisième est One Third of a Nation, qui est un terme de Roosevelt au moment de son inauguration, qui explique qu'un tiers de la nation vit dans la pauvreté. Et le quatrième, Injunction Granted, quatrième et celui qui a le plus de succès, est sur la justice. Donc on n'est pas seulement dans des arts qui peuvent être documentaires, on est dans une attitude documentaire. Peut-être là, il faut peut-être accepter la peinture qui avait commencé avant avec l'aide du ministère des Finances et qui, elle, va vers des fresques monumentales, très très loin du réalisme socialiste, quel que soit l'engagement de ses représentants, mais beaucoup plus proche du monumentalisme des peintres mexicains. Alors pourquoi ? Excusez-moi d'avoir été si long. Pourquoi n'ai-je pas parlé du cinéma ? Tout simplement parce que le cinéma a été en décalage total avec cet éveil culturel du New Deal. Le cinéma a représenté le pouls de l'Amérique, l'imaginaire de l'Amérique pendant 5 ans, entre 29 et 34, parce qu'en 29, au moment de la crise et au moment de la mutation du sonore, il fallait trouver un autre public. Donc le cinéma, à ce moment-là, a commencé à s'intéresser à ce qui se passait, à l'actualité, aux gens et non pas aux personnages de type Mary Pickford, enfin, à l'idée de Saccharine, enfin, l'idée d'un monde merveilleux qui était montré dans les films de Douglas Fairbanks et de Mary Pickford. Mais en 1934 est intervenu un code de la censure beaucoup plus fort, précisément en réaction contre cette liberté du début des années 30. On parle beaucoup du cinéma pré-code. Et au même moment, les studios ont retrouvé leur force, se sont unis. Et par ailleurs, il y avait de la part des studios, jusqu'à la guerre, une réticence très très forte à avoir quoi que ce soit à faire avec les interventions du gouvernement. Au point que les studios ont boycotté les premiers films gouvernementaux, les premiers documentaires gouvernementaux, comme ceux de Per Lawrence. Voilà, donc le cinéma se trouve dans un étrange décalage par rapport aux autres arts. Le cinéma des années 35 à 40, c'est vraiment le cinéma des studios, et les grands cinéastes individuels, les grands individualistes, King Vidor, entre 34 et 39 ou 40, fait des films de studio. Chaplin, entre 35, Les Temps modernes, un des grands films de la crise, et 40, Le dictateur, ne fait rien. Et qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste le seul qui fasse des films, les films qu'on demande, c'est Capra, le populisme démagogique de Capra. Et par ailleurs, qu'est-ce qui reste? Il reste Ford, qui lui non plus, lui aussi fait des films pour les studios. Les seuls films qui restent, ce sont quelques individus, les trois premiers films américains de Fritz Lang, qui sont des films anarchistes. Quelques films avec des scénaristes communistes comme Robert Rosen, tous ces films sont généralement édulcorés sur la fin. C'est le happy ending est imposé, ou d'autres choses sont imposées, et c'est à peu près tout ce qui reste jusqu'à la mutation de 1939-40, où on voit réapparaître le grand film de la crise, Les raisins de la colère, et où ensuite le cinéma se reconverti en direction de l'antinazisme et de la guerre. Pardon.
Merci beaucoup. On va continuer justement un peu sur cette période avec Alice, avec un regard plus centré sur le paysage littéraire, qui est plus ton objet.
Oui, tout à fait. Donc je vais, moi, davantage interroger la manière dont la crise façonne l'imaginaire des États-Unis dans les années 30. En effet, on pourrait se demander pourquoi demander aujourd'hui à l'art de représenter la crise. On ne demande pas à l'art de s'inquiéter de n'importe quelle faillite de banque, de n'importe quel soubresaut de Wall Street. Sinon, ce serait un petit peu dommage pour l'art, je pense. L'intérêt de cette crise de 2008 est qu'elle cristallise une crise bien plus ancienne que l'on peut faire remonter au début des années 70, qui est une crise qui est économique, qui est sociale, mais qui est aussi culturel, géopolitique, écologique, enfin, qui semble interroger notre mode de vie lui-même. Et c'est pour cette raison, peut-être, que l'on peut demander à l'art de la prendre à bras-le-corps. Mais on ne dit pas à l'art « montre-nous la crise », comme on dit à un enfant « montre-nous tes mains pour voir si elles sont propres ». L'art n'a pas simplement vocation à représenter la crise, à la donner à voir, même si c'est une dimension très importante, notamment à travers le regard documentaire qui a justement acquis ses lettres de noblesse, en quelque sorte, pendant la Grande Dépression. L'art a avant tout vocation à reconfigurer la crise, à faire passer l'économique, le social, l'intime, par le prisme de l'imaginaire, en allant parfois même jusqu'à recomposer ce qu'on pourrait appeler le roman national. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis pendant les années 30. Alors, je parle de roman national ou de récit national de manière tout à fait délibérée, puisque les États-Unis sont à bien des égards une nation narrative, une nation qui s'est fondée par les mots de la Déclaration d'indépendance, qui se construit sur le plan législatif à travers l'interprétation du texte de la Constitution par la Cour suprême, et qui accorde énormément d'importance à cette définition presque linguistique de ce que c'est qu'être américain. Bernard Eisenschitz en a dit un mot, c'est quand on regarde les titres de la littérature américaine, on est frappé de voir le nombre de titres qui comportent l'adjectif américain, le mot Amérique, voire USA, qui est le titre d'une grande trilogie de John Dos Passos, qui est la trilogie de la Grande Dépression à bien des égards. Donc la reconfiguration de l'imaginaire politique et du récit national par la fiction, puisque moi je vais me concentrer sur la littérature, est vraiment l'une des caractéristiques de la littérature des années 30. Elle est rendue possible, bien sûr, par un contexte politique dont on a dit un mot, la volonté du président Roosevelt de montrer l'Amérique aux Américains, qui accompagne cette volonté d'argent public qui permet d'envoyer sur les routes de l'Amérique des photographes, des écrivains, des dramaturges, des artistes, des musiciens, des sociologues et des ethnologues également, qui vont ramener donc, des images qui sont aujourd'hui devenues des icônes. Hein. On pense notamment aux photographies de Walker Evans ou de Dorothea Lange, qui représentent donc, ces fermiers pauvres du Dust Bowl, au visage émacié et au regard résolu qu'on retrouve dans Les raisins de la colère de John Steinbeck. Cependant, donc, au-delà de ce contexte politique, il faut d'ailleurs bien voir que ces œuvres-là ne sont pas sorties de nulle part. Hein. Les raisins de la colère, c'est quand même 1939, pour une crise qui a donc commencé en 1929. Et durant toute la première moitié des années 30, lorsque Roosevelt se préoccupait assez peu de culture, je caricature un petit peu, hein, il y avait donc les mouvances prolétariennes, ouvrières, des écrivains qui allaient voir les mineurs en grève, voir les ouvriers du textile et qui racontaient ces expériences dans des romans et qui ont donc participé à une forme de travail de la culture américaine, autrement dit ont permis d'inscrire des thèmes comme la grève, le syndicat, la pauvreté, la misère dans l'imaginaire au moins des artistes et de certains cercles de gauche. Au-delà de cette dimension, disons, documentaire, de témoignage, c'est donc la manière dont ces œuvres reconfigurent le récit national à travers leur forme narrative même. Autrement dit, les romans de la Grande Dépression remettent en question les lieux communs du mythe américain. Je vais prendre rapidement deux exemples, je pourrais revenir dessus par la suite. C'est l'esprit pionnier et l'individualisme. Donc tout d'abord, l'esprit pionnier, l'idée de la frontière, hein, la vision de l'Amérique comme une terre en construction qui conquiert peu à peu les terres de la barbarie. Je me place ici du point de vue du pionnier, hein, du colon. Donc cette idée de l'initiative individuelle, de la bravoure, du courage, de la personne qui n'a pas peur d'affronter l'espace sauvage, mais qui choisit de le faire. C'est-à-dire, l'esprit pionnier, c'est une mobilité qui est librement consentie, pourrait-on dire. Or, dans les œuvres des années 30, cette mobilité, elle n'est plus du tout consentie, elle est complètement subie. Hein. Les personnages des fermiers de John Steinbeck, ils sont expulsés de leur terre qui est saisie par la banque et ils se retrouvent à errer sur les routes. Alors ça fait un road novel fantastique, mais ce n'est pas du Kerouac, de même que ce n'est pas non plus du Horatio Alger, enfin, ce n'est pas non plus le récit idyllique de la mobilité du pionnier américain. Ici, on est dans quelque chose de complètement différent qui retourne le mythe de la quête de la terre promise et du voyage vers l'ouest, hein, puisque les Joad vont vers l'ouest, mais finalement en Californie, plutôt qu'une terre de lait et de miel, ils vont retrouver l'oppression, l'aliénation et l'exploitation. Donc on a vraiment un renversement ici de l'idée de l'esprit pionnier. On retrouve ce renversement à travers la figure du vagabond qui pullule dans les œuvres des années 30, mais alors que dans les années 10, il y avait toute une représentation du vagabond comme aussi libre, finalement, hein, comme exemple de la liberté américaine. Dans les années 30, c'est plus du tout la même chose. Hein. Si on prend le passage final de la trilogie de Dos Passos ou un livre de Nelson Algren, qui est surtout connu en France pour avoir été l'amant de Simone de Beauvoir, mais qui est également un écrivain, il fait le portrait d'un jeune homme, Cass McKay, qui lui est jeté sur les routes parce que sa famille est très pauvre, que son père le bat, qu'il n'a pas d'autre choix. Et en fait, il va de ville en ville, non pas pour faire des expériences, mais tout simplement parce qu'à chaque fois, on le chasse. Et c'est ça l'atmosphère de la Grande Dépression. Le deuxième exemple de stéréotype américain qui est renversé dans ces œuvres-là, c'est l'individualisme. Hein, le self-made man, la capacité à s'en sortir tout seul, dont le revers est, donc si vous en sortez pas, c'est de votre faute, ce qui était quand même un peu la position du président Hoover. Là, l'individualisme est battu en brèche. puisque quand vous avez 25% de la population qui est au chômage, il est quand même assez difficile de dire que c'est tous leur faute. Donc ça se traduit sur le plan narratif. De quelle manière ? Eh bien, on voit dans un certain nombre d'œuvres de cette période que le protagoniste, donc traditionnellement, disons, dans le roman réaliste du 19e, là encore, je généralise beaucoup, hein, mais on a un protagoniste seul face à la société qui veut la conquérir pour arriver jusqu'en haut et qui se joue des obstacles, grosso modo. Là, ça ne fonctionne plus. Et à la place du protagoniste de l'individu, on voit apparaître des protagonistes collectifs. Alors, dans les œuvres plus militantes, ça peut être le syndicat, le parti. Dans les œuvres plus populaire, ça va être notamment la famille. Et ça, chez Steinbeck, c'est très très clair, c'est la famille qui permet d'avancer. D'ailleurs, la famille, elle se délite peu à peu aux différentes étapes du voyage, et cette famille est incarnée par le personnage de Marjode, qui assure en quelque sorte la continuité de la tribu, même si elle la voit peu à peu partir dans tous les sens. On a même des tentatives d'écriture collective. Alors ça, c'est davantage dans les romans prolétariens, mais même chez Steinbeck, si vous prenez Les raisins de la colère, vous avez des chapitres qui traitent de l'histoire de la famille Jode, et de manière alternée, vous avez des chapitres beaucoup plus allégoriques, où le narrateur prend une sorte de voix surplombante pour décrire les déboires des métayers de manière générale, en tentant donc de s'abstraire d'une individualité. D'ailleurs, à bien des égards, le métayer du Dust Bowl est en fait un étrange héros de la Grande Dépression. C'est une figure qui en est devenue l'icône, mais en quelque sorte, ça n'est pas logique, puisqu'on aurait pu attendre, par exemple, le petit actionnaire ruiné par le krach de 1929 et poussé au suicide, ou alors l'ouvrier qui avait connu peut-être une hausse de salaire dans les années 20 au moment de la prospérité et qui, à travers la mécanisation et la crise, se retrouve au chômage ou amputé de son salaire. Or, qu'est-ce qu'on a comme héros ? Le métayer du Dust Bowl, qui n'est pas du tout en crise depuis 1929. Lui, il est en crise depuis bien avant. Hein. La misère des métayers de l'Alabama, de l'Oklahoma, etc., ne date pas du krach de Wall Street. Donc on peut se demander pourquoi cette figure iconique, et avancer l'hypothèse que c'est peut-être justement parce qu'elle représente l'anti-rêve américain. Et donc, en un sens, tout ce que l'Amérique a besoin de voir à ce moment-là de son histoire, à savoir ce qu'elle a refusé de voir, non seulement pendant les quelques années de la Dépression, mais depuis bien, bien avant ça. Hein, une sorte de contre-récit qui finit par émerger dans la culture populaire et mainstream, et qui va d'ailleurs ensuite être intégrée à cette culture populaire et mainstream, puisque ces images font aujourd'hui partie intégrante de la culture américaine. Lorsqu'on se pose la question de la relation entre l'art et la crise, c'est donc aussi à cela qu'il faut penser, à la manière dont ces représentations artistiques nous permettent de transformer notre imaginaire, tout comme la crise elle-même remet en question le tranquille storytelling du train-train politique. Ça ne passe pas forcément par des représentations directes, ni par un regard documentaire, mais on peut se demander, par exemple, aujourd'hui en France, qu'est-ce que la crise fait à un pays qui se construit politiquement dans son imaginaire sur l'égalité, la solidarité, alors qu'aujourd'hui, on veut nous dire que celles-ci sont trop coûteuses. Comment est-ce que ça reconfigure notre manière de nous penser ? Donc moi, je ne me hasarderai pas du tout à donner une réponse à cette question. François Hollande, pendant sa campagne, a parlé du rêve français, qui me paraît déjà très difficile à définir et donc encore plus difficile à redéfinir. Donc je vais m'arrêter sur cette grande question.
Pourtant, c'est une question dont j'aimerais avoir la réponse. On la posera après. Frédéric Martel, vous avez aussi beaucoup travaillé sur l'Amérique, vraiment, qui nous obsède tous, notamment à travers ce livre de la culture d'Amérique qui est paru donc, il y a une dizaine d'années, un peu plus. Qu'est-ce que vous avez à nous dire de plus, en tout cas en complément à ça, sachant que vous vous intéressez aussi beaucoup, mais on reviendra peut-être dans le cours de la conversation ultérieure, sur peut-être un modèle d'une politique culturelle publique française aujourd'hui à réinventer, mais ça on en verra peut-être après. Qu'est-ce que le New Deal pour vous vous semble intéressant, en quoi il est intéressant pour vous dans notre réflexion de ce soir ?
Alors, d'abord, Et on reviendra effectivement sur les questions de politique culturelle sans doute juste après, mais peut-être pour éviter juste d'être soit dans la polémique, soit dans la conversation de salon, même si c'est agréable d'être avec Stanislas que je retrouve ce soir ici, et avec les autres bien sûr aussi, mais que je ne connaissais pas forcément. J'aimerais revenir sur, il se trouve que j'ai fait ma thèse sur la politique culturelle américaine et notamment sur le New Deal, et j'ai eu l'occasion, lorsque je vivais aux États-Unis, de regarder les archives donc de Roosevelt, mais aussi des principaux artisans de sa politique culturelle, en l'occurrence ceux qui ont fait ses grands programmes, qu'il s'appelle Harry Hopkins, ou quelqu'un d'assez peu connu en France comme Ali Flanagan. Et lorsqu'on regarde et qu'on travaille sur cette période, on est frappé parce qu'au fond, on est, contrairement à ce que pensent les Français, aux origines de la politique culturelle, non seulement des États-Unis, mais peut-être même de la politique culturelle tout court. Certes, le Front populaire fera dans les mêmes années des choses assez équivalentes, toutes choses étant égales par ailleurs. C'est d'ailleurs très surprenant de voir qu'au même moment où les États-Unis créent leur politique culturelle, la France le fait aussi, d'une certaine manière, voir la thèse ou les ouvrages existants sur le Front populaire culturel. Et la deuxième période où cette politique culturelle va être recréée, c'est-à-dire au moment de Malraux en France, les États-Unis le font aussi avec le National Endowment for the Arts, comme si les deux pays, aux deux grands moments clés, faisaient, pas tout à fait, mais à peu près, en tout cas avaient le même dessin, même s'ils ne le font pas de la même manière. Et pourtant, je reste quand même très réservé sur l'idée d'une politique culturelle à ce moment-là. Lorsqu'on regarde de près ce que Roosevelt va faire, et je suis très rooseveltien, donc ce n'est pas du tout une critique à ce propos. D'abord, il y a deux New Deals, comme on sait tous, un New Deal de 33-35 et un second New Deal de 35-39. Dans le premier New Deal, comme vous l'avez dit assez bien, il n'y a pas beaucoup de choses sur la culture, même si on commence à l'imaginer. Ça vient du fait que d'abord, Roosevelt a un peu autre chose à faire, si on peut dire. C'est un pays qui est ruiné. Les banques sont fermées. Les chômeurs sont innombrables. Et deuxièmement, ce n'est pas un homme de culture, contrairement à ce qu'on a pu dire depuis. Roosevelt, c'est un homme qui n'aime pas le théâtre, qui ne comprend pas la peinture, qui n'écoute pas de musique et qui préfère les collections de timbres et les modèles de bateaux en miniature. Ses loisirs, uniquement le sport, ou presque. Pourquoi ? Pour muscler ses bras. Parce que, comme vous le savez, il a été atteint de la polio, et ce qui le mènera sans doute à un instinct vers les défavorisés, mais il ne peut même pas marcher pendant sa campagne très, très longuement. Il fait sa campagne en voiture. Donc, ce n'est pas un homme de culture, et pourtant, c'est le premier à avoir créé cette politique en faveur des artistes. Alors d'abord, pourquoi le fait-il ? J'ai découvert dans ses archives des réponses toutes simples qu'il faisait notamment à Hopkins. Là, on est déjà dans le deuxième New Deal, au moment où, au fond, il s'agit de créer des programmes culturels en faveur d'un certain nombre d'artistes. Et il répond, par exemple, une chose toute simple. Lorsqu'on lui dit, mais il y a des peintres qui sont au chômage, il y a des musiciens qui meurent de faim, il y a des écrivains qui n'ont pas de quoi vivre, on lui propose de les financer, de les aider. Il répond, pourquoi pas ? Il répond pourquoi pas, et il ajoute, après tout, ce sont des êtres humains. Ils doivent vivre. J'imagine que la seule chose qu'ils savent faire est de peindre. C'est à propos des peintres. Il doit certainement y avoir des lieux publics où des peintures sont souhaitées. Donc sa réponse, ce n'est pas une réponse de politique culturelle. C'est une réponse extrêmement pragmatique. Il est peu intéressé par le sens idéologique, au fond, de la politique à ce moment-là, mais par son efficacité. Et au-delà de son optimisme fondamental qui caractérise Roosevelt, qui fera qu'il sera réélu 4 fois en dépit de la droite, mais aussi en dépit de l'extrême-gauche ou du Parti communiste, qui n'arriveront pas à perturber d'une seule fois ces élections, et en dépit de ce qu'on a appelé le front culturel aux États-Unis des années 30, il n'y a pas de grand plan, il n'y a pas de philosophie. Il n'y a même pas de politique économique claire. On a souvent résumé une partie de la politique économique de Roosevelt au keynésianisme, évidemment, sauf que le grand livre de Keynes date de 1936. Donc, au fond, Roosevelt est keynésien avant Keynes et n'a pas, en fait, réellement imaginé ou défini cette politique. Au fond, il improvise, et je ne dis pas ça négativement, il bricole. Il prend des idées, d'ailleurs, à la droite, aux uns, aux autres, aux artistes, aux communistes, à qui veut, pour sortir le pays de la crise et de la misère. Et au fond, quand il crée ses emplois publics, à nouveau, il n'est pas keynésien, il prend juste une décision pour remettre des chômeurs au travail. Ce qui n'empêche pas autour de lui d'avoir, et là ça devient très visible au moment de ce second New Deal, des gens qui, eux, sont non seulement des hommes de culture, mais aussi des hommes qui veulent imaginer une politique culturelle. Et c'est notamment le cas de Harry Hopkins, donc, qui est un des plus proches collaborateurs de Roosevelt. Ce sera sans doute l'homme le plus proche de Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale, donc son influence est décisive. Et c'est à lui que Roosevelt confie la direction de la Work Progress Administration, la WPA, qui est celle sans doute qui est la plus connue aujourd'hui, puisque ça va être cette grande administration du second New Deal, donc entre 1935 et 1939, avant son démantèlement par le Congrès en 1939, et qui va, ne l'oublions pas, n'être pas d'abord une activité culturelle. Le Work Progress, ou la Work Progress Administration, je dis là, mais il y a toujours un débat, moi je dis là parce que c'est une administration, donc je le féminise, la WPA, elle va quand même construire 600 aéroports, 110 000 écoles et gares, 800 000 km de route, 100 000 ponts. Donc c'est d'abord et avant tout une administration de construction, de remise du pays à niveau, à flot. Mais elle va aussi avoir, à travers un programme qui est créé par Hopkins à ce moment-là, une, entre guillemets, politique culturelle, baptisée, les Américains ont toujours le don pour des mots, hein, des codes, ça va être baptisé le Federal Project No. 1, plus connu aujourd'hui sous le nom de Federal One, qui est une des parties de la WPA. Et ce projet Federal 1, hein, Federal One, va salarier, mettre au travail plusieurs dizaines de milliers d'artistes répartis dans 5 programmes. Le Federal Writer Project, dont vous avez parlé, ou en tout cas dont un certain nombre des conséquences ont été évoquées. Plus de 7000 écrivains seront salariés, dont Nelson Algren, dont Saul Bellow, Robert Frost, Ralph Ellison, a signalé, vous l'avez dit aussi, 2 auteurs noirs, donc Ralph Ellison et Richard Wright, ce qui prouve que Roosevelt, dans un rapport très compliqué à la race, mais en même temps comme étant un des premiers présidents américains très favorable à la déségrégation, mais ne pouvant pas le faire à compte tenu notamment des démocrates du Sud. Vous savez que les démocrates dans le Sud, jusqu'à Johnson, seront essentiellement des libéraux sur le plan économique, extrêmement de gauche sur la plupart des secteurs, sauf sur la question de la race, où ils resteront extrêmement racistes, et même parfois plus que les républicains du Sud, jusqu'au grand basculement de Johnson, qui va d'ailleurs coûter pour une part au Parti démocrate un certain nombre d'élections dans les années qui suivront. Deuxième programme, un programme très connu sur la musique, ça a été un peu évoqué, où on crée plus de 16 000 artistes, musiciens seront salariés, des grands orchestres créés, les commandes d'Aaron Copland, notamment sur la musique américaine, l'analyse de l'histoire déjà du blues, hein, qui sera accompagné, etc. Un programme qui a été évoqué aussi sur l'art, hein, Federal Arts Project, ils s'appellent tous comme ça, Federal Arts Project, Federal Writer Project, Federal Music Project. Sur les arts, un certain nombre d'artistes ont été évoqués, les noms des photographes Dorothy Lange ou Berenice Abbott, mais on peut aussi citer Jackson Pollock, bien sûr, ou Mark Rothko, qui ont été financés par le New Deal, donc par Federal One de la WPA. Et puis, il y a aussi un petit programme de danse, hein, Project, mais le plus connu de ces programmes s'appellera Federal Theater Project, et c'est lui qui est confié à cette femme, Ali Flanagan, dont on a d'ailleurs suspecté par la suite qu'elle était proche du Parti communiste. Et là, on a un programme extrêmement riche qui va permettre à plus de 830 pièces de théâtre d'être créées dans 31 États, 13 000 comédiens salariés, et dit-on, alors tout ça évidemment avec les statistiques de l'époque, mais plus de 25 millions d'Américains ont eu la possibilité de voir une pièce du Federal Theater Project, qui est divisée en tout un tas de sous-projets, la création de théâtres régionaux, de grandes pièces, d'accueillir de nouveaux publics, de faire des tournées dans les plus petits villages des États-Unis. Et on connaît bien sûr, ça a été évoqué aussi, les pièces mises en scène par Joseph Losey, mais surtout aussi par Orson Welles, que ce soit Macbeth, que ce soit Jules César ou The Cradle Without Rock, qui suscite une controverse et qui d'ailleurs conduit Orson Welles à démissionner du Federal Theatre Project. À signaler d'ailleurs qu'à cette époque-là, le cinéma n'est pas encore reconnu comme un art, puisqu'il n'a pas un programme à lui seul, et que les artistes de cinéma, c'est souvent à travers le programme de théâtre qu'ils sont financés. Alors j'étais un petit peu long sur cette présentation, mais ce qui me paraissait important, c'est de, et peut-être pour conclure, de dire que ces différents programmes sont d'abord des programmes, je dirais, strictement sociaux. Il ne s'agit pas d'une politique culturelle, et en tout cas, il n'a pas été, il n'y a aucun moment dans la tête de Roosevelt, dans ses mémoires, dans ses archives, même dans celle de sa femme, très importante sur tous ces sujets. Elle est très proche de, et elle la soutient beaucoup, Ali Flanagan, et au moment d'ailleurs où le programme Federal Theatre Project est dissous par le Congrès, précisément par la Chambre, hein, par la House, il y a une lettre de Roosevelt, Madame Eleanor, à Ali Flanagan, qui lui dit combien elle est triste que son programme se termine. Alors que reste-t-il de tout ça ? À la fois rien et tout. Rien parce que les programmes sont démantelés en 1939 par le Congrès, très critiqués très vite, notamment pour leurs liens et le financement d'artistes communistes, et bientôt d'ailleurs suspects avec notamment le House Committee for Un-American Activities, qui dès cette période-là, parce qu'il existe très tôt, va regarder ce qui a été financé, notamment en liaison avec le communiste, et notamment le Federal Theatre Project, qui sera très, extrêmement critiqué. Rien non plus parce que la politique culturelle, entre guillemets, qui n'est pas vraiment voulue par Roosevelt, ne survit pas à la guerre et donc à la fin du New Deal et de la WPA, puisque les programmes sont tous démantelés et en réalité, les artistes, compte tenu de la guerre, ils ont autre chose à faire, mais surtout ne vont pas continuer à perdurer en tant que politique culturelle. Et il faudra attendre 1965, c'est-à-dire bien plus tard, pour que Johnson, hein, sur recommandation d'ailleurs de conseillers qui ont pu connaître les programmes de Roosevelt, et je pense notamment à Schlesinger, le grand conseiller de Kennedy, qui a été, comme beaucoup le savent, l'historien des années Roosevelt, et qui a sans doute avait ça en tête quand il a proposé à Kennedy, et ce que Johnson fera, créer le début d'une politique culturelle américaine. Donc il ne reste rien, et en même temps il reste tout, parce que sans ces années 30 et sans la WPA, et en particulier Federal One, sans doute il n'y aurait pas eu par la suite d'agence culturelle fédérale américaine avec l'histoire qui continuera de ce côté-là. Il reste tout également parce que lorsque les programmes de la New Deal sont clos, lorsque ces programmes sont démantelés, les bâtiments qui existaient, et à ce moment-là, beaucoup ont été créés, un grand nombre de musées, de théâtres, de lieux de spectacle, en réalité peut-être un millier, on ne sait pas exactement parce que parfois ils étaient antérieurs, parfois ils ont été financés sur d'autres bases, mais beaucoup de lieux théâtraux, musicaux, culturels et des musées ont été créés dans ces années-là, notamment avec l'argent de Roosevelt et de la WPA. Et ces programmes, parce qu'il ne faut pas oublier que le New Deal était très décentralisé, ces programmes, ces bâtiments qui existent sont cédés aux États, et non pas au gouvernement fédéral qui dissout tout ça. Les États vont récupérer ces bâtiments, et en réalité, après-guerre, notamment avec le retour des GI, des grandes universités d'État vont être, elles existaient déjà, mais vont être très fortement amplifiées, notamment tout le système des universités de Californie, de New York, mais aussi du Texas, par exemple. Et toutes ces universités vont récupérer ces bâtiments, ces musées, ces théâtres, et on a aujourd'hui là le cœur de la politique culturelle américaine actuelle qui est fait dans ces lieux dont certains et dont le mouvement est né pendant le New Deal. Enfin, peut-être l'acquis principal, et ça a été dit aussi par certains d'entre vous, ce qui se passe dans les années 30, c'est le passage d'une culture, je dirais, plutôt européenne, de conservation, de valorisation du patrimoine européen qui existait déjà dans les musées et notamment à la National Gallery que Roosevelt va inaugurer à ce moment-là et qui étaient essentiellement des impressionnistes ou des artistes français de tout genre, avec les Américains qui avaient honte de leur art et qui n'aimaient pas, qui considéraient que l'art était forcément européen. Les mémoires de Schlesinger, par exemple, ils racontent comment pour lui la culture, c'était venir à Paris, c'était se souvenir dans les années 30 de ce qu'était la culture européenne. Alors même si dans ces années-là, que ce soit Walt Disney, que ce soit, je ne sais pas, la chanson de Billie Holiday, Strange Fruit, Duke Ellington, ou le théâtre de Broadway, même si tous ces arts sont déjà très importants et extrêmement connus d'ailleurs dans le monde entier, déjà même avant la guerre, ce qui change avec Roosevelt et en 41 précisément au moment, je dirais, de l'inauguration de la National Gallery par Roosevelt, c'est que l'art américain, non seulement il existe, mais il est à partir de là reconnu. Et je termine en citant ce que je cherchais tout à l'heure, ce discours de Roosevelt. Donc, il inaugure la National Gallery à Washington en 1941 et Roosevelt dit, on est là à la fin de ses programmes au début de la guerre, il fut un temps où les gens de ce pays n'auraient jamais imaginé que le patrimoine artistique de l'histoire puisse leur appartenir ou qu'ils puissent avoir la responsabilité de le protéger. Il y a encore quelques générations, on disait aux Américains, les écrivains, les critiques et les enseignants le répétaient, que l'art était quelque chose d'étranger à l'Amérique et à eux-mêmes. Quelque chose venant d'un autre continent, d'une autre époque, quelque chose qui n'était pas à eux. Mais récemment, ces dernières années, ils ont vu des salles pleines de sculptures faites par des Américains, des murs couverts de peintures faites par des Américains. Certaines sont bonnes, d'autres ne le sont pas, mais toutes sont de leur propre pays, humaines, enthousiastes et vivantes. Les gens de ce pays savent désormais, quoi qu'on leur ait enseigné, que l'art n'est pas seulement quelque chose que l'on peut posséder, mais quelque chose que l'on peut faire, et que c'est l'art de faire, et non pas celui de posséder, qui constitue l'art. Et Roosevelt d'ajouter, c'est pourquoi le peuple américain se soucie du patrimoine artistique ancien, un monde contre lequel des armées sont levées et des pays envahis et des hommes emprisonnés et leurs œuvres détruites. Accepter aujourd'hui les œuvres de peintres allemands comme Holbein et Dürer, d'Italiens comme Botticelli ou Raphaël, et les peintres des Pays-Bas comme Van Dyck, Rembrandt, et des Français, des Espagnols célèbres, accepter aujourd'hui cette responsabilité des œuvres d'art du passé, c'est défendre au nom du peuple américain la liberté de l'esprit humain et de la pensée, celle qui a produit les plus grandes œuvres d'art et toute la science, et veiller à ce qu'elles ne soient pas entièrement détruites. On est en 1941, Roosevelt a oublié les Indiens, mais il parle devant, au moment de l'inauguration de la National Gallery, il parle de l'Amérique et de ce qu'elle est devenue. Et ces phrases, pour un Français comme nous sommes, pour des Français comme nous sommes, sont un peu amères, parce que ce qu'annonce Roosevelt, c'est ce qui va se passer. La capitale artistique du monde était Paris, ça va devenir New York. À travers ces années-là, ce qui change, c'est que l'art devient américain, et qu'il soit artistique ou qu'il soit mainstream, il devient à ce moment-là très fortement américain. Et cette histoire, c'est un peu notre défaite.
Les questions culturelles, tu en fais quoi? Bon, merci beaucoup Frédéric, on pourra peut-être revenir dessus. On va donc élargir cette table, mais là, enfin, cette table ronde, enfin, cette rencontre avec Stanislas Tordet, dont j'imagine que les descriptions que Frédéric faisait des programmes d'aide aux compagnies de théâtre devait faire un peu rêver, parce que c'est vrai que c'est impressionnant d'imaginer un peu le travail qui a été fait à ce moment-là. Mais au-delà de cette comparaison-là, ce qu'on avait envie avec vous peut-être d'entendre ou d'essayer de comprendre, c'est en quoi peut-être, disons, le champ du spectacle vivant aujourd'hui en France vous semble peut-être justement précisément sur cette question de la crise un petit peu, je ne sais pas, en retrait, en décalage. Je crois que vous avez souvent, vous qui vous intéressez beaucoup aux textes contemporains, puisque vous mettez en scène énormément de textes d'auteurs d'aujourd'hui, vous semblez souvent un peu quand même étonné par peut-être une sorte d'impuissance hexagonale presque à penser ces questions-là, comparé peut-être à d'autres auteurs dans d'autres pays qui prennent peut-être plus à bras le corps justement cette question-là. Qu'est-ce que vous avez à nous dire de tout ça?
Oui, bonjour. Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure de l'étrange décalage du cinéma dans les années 30 par rapport à cette question-là. C'est vrai que dans l'écriture contemporaine française, dans ce qu'on voit sur les plateaux en France, mais assez généralement, la question tout bonnement de regarder le moment contemporain est quelque chose d'assez rare, d'assez absent. C'est-à-dire, on attend toujours les grandes pièces et les grands spectacles sur la guerre d'Algérie, par exemple. C'est-à-dire que la question du contemporain est très, très peu prise en compte. On est beaucoup dans le patrimonial pour des raisons économiques, parfois, parce que les producteurs et les directeurs de théâtre sont toujours bien plus friands, souvent, de favoriser le patrimoine. Mais au-delà de ça, il y aurait comme une forme d'impuissance, de questionnement, de retard à l'allumage pour traiter du contemporain. On s'y met toujours un tout petit peu trop tard. Alors, par exemple, il est frappant de voir que sur la question de la crise économique, les premières, me semble-t-il, grands spectacles et grandes pièces qui ont été faites, c'est par Falk Richter en Allemagne, que j'ai monté à plusieurs reprises, sans être en plus dans un théâtre qu'on pourrait qualifier de documentaire, parce qu'il y a toute une partie d'un théâtre, d'une résurgence du théâtre documentaire aujourd'hui, notamment en Suisse alémanique. Mais Falk Richter, par exemple, immédiatement, au moment où il y a le Lehman Brothers et tout ce moment-là, immédiatement écrit, immédiatement met en scène, immédiatement prend le risque, parce que c'est un risque aussi, prend le risque de dire des choses, de se tromper, de représenter, de prendre parti. Et c'est assez inhabituel pour nous Français, parce que on a toujours, il y a une espèce de, comme ça je pense, là je parle de l'écriture et aussi en tant que metteur en scène, une espèce d'hésitation peut-être comme ça. Il est plus facile de se dire qu'on va monter un Shakespeare ou qu'on va monter un Molière et qu'à travers le prisme de Shakespeare ou de Molière, on va, dans le cadre d'une mise en scène, réactualiser. Il y a tout un courant dans les années 70 de mes aînés qu'on a appelé la réactualisation des classiques, c'est-à-dire on passait plutôt par des grandes œuvres du répertoire pour dire quelque chose sur notre monde d'aujourd'hui. Et à côté de ça, évidemment, on donnait pas la parole aux écrivains d'aujourd'hui. Alors souvent, je suis qualifié, on pourrait dire, principalement parce que je monte depuis des années le répertoire contemporain, essentiellement théâtral. Donc je discute beaucoup avec des auteurs français, italiens, anglais, allemands. Et c'est vrai que il y a quelque chose de culturel aussi, c'est-à-dire que les auteurs français se réclament beaucoup de peut-être plus de Racine ou de Claudel, on va dire. Il y a comme ça quelque chose qui, on n'a pas Brecht par exemple chez nous, hein. On a les grands auteurs comme ça sont des auteurs très littéraires. Donc est-ce que ça vient de là? Ça c'est par exemple une des réponses qui est donnée souvent par les auteurs. Didier Georges Gabilly ou Jean-Luc Lagarce, qui sont quelques-uns des grands auteurs de théâtre des temps récents, se sont très peu attachés, par exemple, à décrire le mouvement contemporain. Ils sont repartis beaucoup vers le mouvement des auteurs grecs. Ils ont réécrit les classiques aussi. Donc, ce qui me frappe, c'est peut-être ça, en tout cas en France, c'est-à-dire une absence. Alors, il faut être prudent, hein, je parle là de ce qui est apparent, de ce qui est le plus apparent, de ce qu'on voit dans les grosses institutions, les institutions moyennes. Il y a peut-être tout un mouvement souterrain qu'on ne voit pas encore, qui est en train de naître et qui s'intéresse à ces questions-là. Mais il y aurait comme une forme soit de frilosité, soit d'hésitation. Falk Richter, juste qui est publié en France, hein, et qui, dans des pièces comme Trust ou My Secret Garden ou dans Ivresse, véritablement, lui, directement nomme la crise, la décortique, met en scène des personnages qui la subissent de plein fouet. Donc, voilà, s'aventure sur ces terrains-là. Alors, en même temps, je crois aussi que, suivant un tout petit peu, parce que j'ai des amis là-bas, ce qui se passe en Grèce, par exemple, ou au Portugal, alors là, on pourrait élargir un tout petit peu à notre ressenti à tous de la crise, je crois aussi qu'il y a une hésitation aussi peut-être en France, alors est-ce qu'elle est simplement chez les artistes ou partout, sur est-ce qu'on est déjà frappé de plein fouet ou pas, donc faut-il en parler maintenant, est-ce si grave, avons-nous le droit d'en parler parce que finalement nous ne sommes pas si dévastés par la crise, bon, donc il y a une vraie question comme ça, par exemple en Grèce et au Portugal, de la part de gens qui sont en train de tout perdre, et je ne dirais pas qu'il faut tout perdre pour pouvoir enfin créer des choses intéressantes au théâtre, hein, c'est pas du tout mon propos, mais de fait, les artistes, et particulièrement les jeunes générations, là, produisent des œuvres immédiatement polémiques, qui permettent d'engager le dialogue aussi avec les institutions sur cette question-là, mais on pourrait dire parce qu'ils sont en train de tout perdre et que la seule chose qui reste, c'est d'en parler, c'est de faire quelque chose avec ça. Est-ce que nous en sommes déjà là? Est-ce que, en tout cas, dans la perception qu'on a de la crise, il y a quelque chose de cet ordre-là? Et alors, l'autre question, moi, que je trouve intéressante, c'est aussi que il me semble, mais là, je ne sais pas si on peut en parler de la même manière sur la littérature et le cinéma, que les gens qui s'expriment dans les grandes institutions et les institutions moyennes ne sont pas les gens qui sont frappés de plein fouet par la crise non plus. C'est-à-dire qu'il faut quand même avouer que les gens qui travaillent dans les grandes moyennes institutions sont des gens qui font partie de la grande et de la moyenne bourgeoisie, on peut dire quelque chose comme ça, et que donc la question d'être directement concerné n'est peut-être pas là immédiatement et que ce n'est pas ce dont ils vont parler avant toute chose. Et là, je pense qu'il y a une question assez passionnante aussi sur qui aujourd'hui a accès aux outils qui permettent de pratiquer la culture, de la raconter, de la propager, de la diffuser. J'aime à raconter toujours. Moi, j'ai dirigé pendant 12 ans l'école de théâtre de comédiens de Rennes. Et au concours d'entrée, on a en général 1000 personnes. Et c'est vrai que quand on regarde, on n'a pas le droit, hein, de faire des statistiques et tout ça, mais on regarde quand même, et c'est très très frappant sur 1000 personnes qui osent, on va dire, se présenter pour devenir acteur. La minorité, les fils d'ouvriers ou les fils de paysans, par exemple, c'est une minorité infime, hein, c'est-à-dire quand il y en a deux ou trois, c'est vraiment exceptionnel. Donc la question aussi de qui parle sur les scènes de théâtre, qui parle, qui sont les gens qui font des films aujourd'hui, en tout cas les films qui ont la chance d'être diffusés. Donc c'est une vraie question aussi, parce que pour parler de la crise, pour tout d'un coup avoir l'envie de parler de ça, la nécessité de parler de ça, il faut aussi être directement très concerné. Donc aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne la Grèce et le Portugal, il y a cette question-là de gens qui ont presque tout perdu et qui ne peuvent pas faire autre chose et autrement que de travailler effectivement dans des petites formes, dans des hangars, pour tout d'un coup raconter ce qui arrive à leur société et ce qui leur arrive à eux directement. Après, pour finir, l'autre chose, c'est aussi la question de... je sais pas si on va avoir le temps de développer ça, hein, ce que vous disiez, comment dans un contexte de réduction des ressources publiques et des budgets en diminution, les artistes peuvent-ils encore travailler? On peut toujours continuer à travailler, ça évidemment. Quand on est peintre, à partir du moment où on arrive à manger encore, à peu près, on peut toujours peindre. Quand on est musicien, à partir du moment où on a son instrument, on peut toujours. C'est-à-dire, on peut toujours, bien sûr. Par contre, comme on est en général, là je parle de l'endroit du théâtre et du spectacle vivant, dans un mouvement en ce moment de lente diminution des moyens, c'est-à-dire petit à petit, petit à petit, petit à petit, c'est-à-dire pas un vrai coup de massue sur la tête, par définition, ce sont les plus petits, les émergents, ceux qui avaient déjà très peu, qui ont de plus en plus de mal et qui ne peuvent plus rien faire, et ceux qui font partie de ceux qui ont la chance d'avoir un certain nombre de moyens, eux réduisent un petit peu la voilure, mais ne sont pas véritablement touchés. Donc là, je ne sais pas s'il faut espérer un grand soir. Parfois, y a cette espèce d'idée que notre modèle français, en tout cas, serait à bout de souffle, ce qui est peut-être vrai. Mais soit il va agoniser lentement pendant longtemps parce que finalement les privilèges de certains vont diminuer, mais il va toujours y avoir comme ça une espèce de hiérarchie ou de pyramide, soit il y a une espèce de grand soir où effectivement tout s'écroule et on reconstruit tout, ce qui pourrait être intéressant, même si je ne le souhaite pas forcément, parce qu'aujourd'hui la question elle est simplement de est-ce qu'on est dans un moment, mais comme dans notre société hein, j'imagine, c'est-à-dire que les gens les plus touchés aujourd'hui, c'est évidemment ceux qui ont le moins, et puis ceux qui ont beaucoup, ils sont un petit peu touchés. Dans la question de l'art et de la culture, c'est la même chose. Donc, je n'ai pas l'impression que le pourrissement léger et continuel du financement, des subventions, etc., amène quoi que ce soit et va changer quoi que ce soit. Soit il y a tout d'un coup une espèce de cataclysme national partout qui fera qu'on repensera peut-être forcément un nouveau New Deal, un nouveau modèle. Mais le modèle qui existe aujourd'hui, il est simplement en mode, je dirais, de comment on appelle ça, de rétrécissement progressif, et donc ne change pas grand-chose finalement à la question. Inventer d'autres modèles, oui, mais je pense que inventer d'autres modèles en remettant vraiment tout à zéro, en reprenant les racines à zéro. Mais alors, je montais Anya Ehling il n'y a pas longtemps, Tristesse animale noire, et Anya Ehling disait, ça raconte l'histoire d'un incendie, d'un feu de forêt, et de comment, quand la catastrophe frappe nos vies, on est obligé après de repenser les modèles. Et en même temps, elle disait, dans une interview, elle disait, je ne souhaite pas que la catastrophe nous frappe, mais il va de soi que quand la catastrophe nous frappe, elle nous oblige à repenser nos modèles et que c'est un phénomène forcément passionnant, puisqu'il faut tout reconstruire de zéro.
Merci. Mais justement, pour rebondir là-dessus, avant de laisser la parole à la salle, bien sûr, ce que je trouve frappant, comme vous disiez, c'est qu'on peut toujours travailler, mais par exemple, aujourd'hui, beaucoup de jeunes artistes, par exemple plasticiens, leur vrai problème aujourd'hui, c'est que par exemple, ils n'ont pas de lieu de travail. Ils n'ont pas la possibilité de travailler précisément parce qu'ils n'ont pas ces espaces. Et en écoutant Frédéric Martel, c'est vrai qu'on était frappé par justement la puissance du pragmatisme du New Deal américain, justement en donnant la possibilité de manière très, tu l'as dit, sans théoriser spécialement un modèle petit culturel, mais très concrètement, a pu permettre justement aux gens de travailler. Est-ce que c'est pas un des problèmes d'aujourd'hui aussi pour beaucoup d'artistes, hein, au-delà du financement de leurs œuvres, qui est évidemment compliqué, mais même j'ai l'air tout simplement de travailler. Aujourd'hui, dans le théâtre, par exemple, on sait très bien que des compagnies sont en train de fermer portes, enfin beaucoup, on parle même de fermer des théâtres. Donc on voit bien que c'est quand même cette chape de plomb, enfin financière, est quand même un des gros problèmes d'une politique culturelle aujourd'hui. Frédéric, qu'est-ce que vous pensez de aujourd'hui, parce que la nouvelle politique culturelle en tout cas théorisée par Olivier Petit, par exemple, invite à ce qu'elle appelle un redressement créatif dans un contexte précisément comme ça de gel des crédits, quand même, parce que je rappelle que les gels des crédits du ministère de la Culture sont quand même assez importants, parce qu'on a perdu, je crois, 6%, c'est ça, et ça risque de continuer. Est-ce qu'il est possible, à votre avis, de développer, disons, en tout cas, de favoriser le travail des artistes aujourd'hui dans ce cadre-là?
Si vous voulez me faire dire que François Hollande est Roosevelt, la réponse est non.
Mais vous pensez même que...
Je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais parce qu'après, ça renvoie à quelque chose que justement j'ai voulu essayer d'éviter de traiter. Parce que, la question, c'est qu'est-ce que vous faites dans une période comme celle-ci? Et moi, je fais partie de ceux qui pensent, et c'est l'avantage entre guillemets des intellos ou des chercheurs ou de je ne sais pas quoi, ou des journalistes même, c'est qu'on est au sens propre du mot irresponsable, puisqu'on n'est pas en responsabilité. Donc on peut tout se permettre, mais c'est vrai que je pense quand on n'a pas de solution aux questions qui se posent, il faut changer les questions, donc il faut changer le modèle.
Et le modèle, en quoi le modèle d'aujourd'hui vous semble caduque?
Pourquoi ce modèle a fonctionné aussi bien, c'est que ce soit sous Malraux ou sous Lang, au fond, les deux grands ministres et les seuls qui restent réellement, c'est qu'on était en progression budgétaire très forte. Le modèle français, c'est un modèle où quand vous avez de l'argent, vous ouvrez, vous créez. Enfin, je me souviens de ce que disait Jean Gattegnaud, qui était l'homme des bibliothèques de Jacques Lang. Il devait ouvrir une ou deux bibliothèques chaque semaine. Donc, vous aviez une progression fulgurante. Ça, c'est Roosevelt, au fond. Après, si vous êtes à un moment où vous ne pouvez plus en ouvrir une seule et où vous n'avez plus les budgets pour ne serait-ce que faire vivre celle que vous avez. D'où le problème des entrants dans le système. C'est que ce système est formidable parce que constamment vous avez des nouveaux entrants, mais dès lors que le système est figé comme aujourd'hui, les entrants, alors qu'ils soient jeunes acteurs, qu'ils soient, ne peuvent plus rentrer. Et un système où il n'y a que des gens en place, ou sans être critique, il suffit de voir quelques théâtres où les gens sont là éternellement, sans plus rien créer parfois, même si ce n'est pas toujours le cas, on voit bien le problème que ça pose, parce que qu'ils ne créent plus et qu'ils soient vieux et sans idées, comme le directeur du Conservatoire national d'art dramatique, par exemple, pour en citer un au passage, c'est une chose. Mais quand vous n'avez pas la capacité de faire entrer de nouveau, vous n'avez plus la possibilité d'avoir de nouveaux directeurs, etc., à partir de là, le système est figé et on a un système qui est à bout de souffle. Voilà. Alors, après, sur les propositions, j'ai écrit beaucoup sur ça, d'autres aussi ici. C'est une longue discussion.
Alice, peut-être pour rebondir sur la lecture quasi culturaliste que faisait Stanislas, finalement, en évoquant le fait qu'il y avait en tout cas une sorte de presque de tradition française à avoir la difficulté à affronter comme ça le contemporain. Est-ce que tu penses que c'est une lecture, comment dire, qui doit être une lecture sociologique, c'est intéressant aussi, sur justement l'accessibilité, enfin, en tout cas au mode artistique en lui-même. Qu'est-ce que ça t'évoque, enfin, t'as l'impression que...
Moi, je pense que sur la question de la spécificité française par rapport au traitement du contemporain, je ne sais pas si c'est culturel ou lié à des conditions économiques, sociales, du milieu culturel. De fait, c'est vrai que si vous observez le paysage artistique, je parle des États-Unis hein, parce que je connais, mais c'est aussi le cas de la Grande-Bretagne, des productions sur la crise, vous en avez quand même un certain nombre et vous en avez très rapidement. De même que si on pense ne serait-ce qu'aux films qui ont été créés sur la guerre en Irak, en France on n'a pas l'équivalent sur la guerre d'Algérie, c'est pas exactement le même laps de temps. Donc c'est vrai que, disons aux États-Unis, ce traitement du contemporain est beaucoup plus ancré, y compris dans les modes de production, dans la manière dont se construisent des œuvres, dans la manière dont on les finance, etc. Je pense à un excellent film qui s'appelle Margin Call, qui est sorti l'année dernière. Alors là, pour le coup, on est dans la fiction, dans une fiction qui est très proche du réel, mais on est dans l'allégorie. C'est vraiment comment tout bascule, comment, à un moment donné, quelqu'un décide d'être le premier domino qui va tout faire s'effondrer. Là où je serais peut-être en désaccord, c'est sur cette dimension sociologique de dire, je caricature beaucoup, hein, mais en gros, il n'y a que des bourgeois dans les théâtres, dans les cinémas, etc., donc on ne va pas parler de la crise. C'est intéressant parce que ça fait écho à un débat, je reviens un petit peu dans les années 30, qui était le débat autour du roman prolétarien. Quand on s'est demandé qu'est-ce que c'est qu'un roman prolétarien, alors il y avait ceux qui disaient, le roman prolétarien, il est forcément écrit par un prolétaire. Il ne peut pas être écrit par quelqu'un de la classe moyenne. Et il y avait ceux qui disaient, non. Un roman prolétarien, c'est un roman qui parle du prolétariat, qu'il soit écrit par un bourgeois, par un prolétaire ou par un aristocrate, on s'en fiche. Et il y avait ceux qui disaient, alors c'est ni l'un ni l'autre, c'était une discussion très compliquée, d'ailleurs qui n'a jamais été vraiment résolue, qui était, non, la question c'est celle de la perspective révolutionnaire. Vous n'êtes même pas obligé de parler du prolétariat pour écrire un roman prolétarien, il suffit que vous le fassiez dans une perspective révolutionnaire. Et donc si vous parlez d'un aristocrate qui se rebelle contre son milieu, etc., ça peut entrer dans la catégorie du roman prolétarien. Donc après, je suis d'accord pour dire que la rigidification d'un système culturel et associé à cette difficulté à parler du contemporain, là oui, là ça a des conséquences sociales, sociologiques, qui fait que on ne va pas forcément voir ce qui se passe ailleurs. Par ailleurs, c'est peut-être aussi des problématiques différentes dans le théâtre et dans d'autres genres comme le cinéma ou notamment le cinéma documentaire et ce que tu disais aussi en termes d'institutions. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des structures, mais qui sont aussi plus fragiles, qui produisent des spectacles. Enfin, dans le numéro d'Esprit, on avait fait une interview avec Myriam Marzouki qui avait monté justement un spectacle alors qui au début n'était pas censé exactement parler de la crise et puis qui finalement à travers le prisme de l'écologie finit par parler de la financiarisation etc. Et je voulais juste ajouter une toute petite chose la question de la crise est aussi liée à celle de la crise de la langue. Ça c'était quelque chose qui était très important pas seulement dans les années 30, dès les années 20 bien sûr avec le modernisme, c'est quelque chose qui est inauguré par la rupture de la Première Guerre mondiale mais aujourd'hui aussi on l'observe cette crise de la langue, cette espèce de monopole de la langue technique qui fait que les artistes doivent enfin c'est pas une injonction, mais soit réinvestir ce vocabulaire en le transformant, en l'étirant, en le déchirant, ou alors trouver des modes de parole alternatifs. Parce que là, c'est vrai qu'il y a vraiment une impression de noyade. Enfin, je veux dire, en Italie, le spread, c'est devenu un truc, c'est tous les jours sur la première page des journaux, on ne parle que de ça et on ne pense qu'à travers ce prisme-là.
Pour rebondir sur ce que disait Frédéric tout à l'heure sur les nouveaux modèles, je pense aussi qu'on a quand même en France, je parle là du spectacle vivant, je rebondis sur ce que tu disais sur les directeurs qui sont en place, etc., ce qui est assez vrai, on a une vraie marge sur partager plus l'outil. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a une forme de confiscation de l'outil par quelques-uns, ça ne veut pas dire de couper en parts égales le gâteau, etc. Mais c'est vrai qu'on a quand même, face à la crise existante, il y aurait déjà la possibilité, s'il y avait une vraie solidarité effective, de pouvoir ouvrir beaucoup plus de portes à beaucoup plus de jeunes. Il y a de la place. Enfin, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Frédéric quand il disait que les outils qui ont été construits, par exemple les théâtres, tu disais aux États-Unis, sont restés. Là, on a un certain nombre d'outils assez énormes. On est encore un pays riche en termes de subventions publiques. Donc, je ne dis pas que c'est suffisant, mais je dis que déjà, il y a un travail qui n'est pas vraiment fait à cet endroit-là de partage et de solidarité des uns avec les autres dans un moment plus difficile qu'un autre. Ça, c'est réel. Et après, pour rebondir sur ce que tu disais là sur les artistes et sur l'origine sociale des artistes, c'est juste pour prendre un exemple pour qu'on puisse l'entendre. Les grandes années de la Schaubühne à Berlin, quand la Schaubühne était dirigée par Peter Stein, c'était quand même Peter Stein qui montait des pièces de Botho Strauss, et les pièces de Botho Strauss, c'était des pièces qui mettaient en scène des bourgeois berlinois, les mêmes qui venaient à la Schaubühne voir les pièces, c'est-à-dire on était quand même terriblement dans l'entre-soi, quoi. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de réel, me semble-t-il, dans quelque chose de cette lecture. Là. Et à propos de lecture, moi, je vais devoir vous quitter très bientôt. Ouais. Je dois aller en faire une à théâtre ouvert. Hein.
Pour vous, la crise ne joue pas. On a du travail.
Commencer ma petite entreprise ne connaît pas la crise, c'est ça.
Bon, merci beaucoup, Stanislas. Je vous en prie. S'il y a des questions dans la salle, évidemment, elles sont les bienvenues. Hein. Si vous voulez interpeller, nous inviter, n'hésitez pas. Monsieur, je vous en prie, ouais.
Vous avez pas du tout pas évoqué les arts plastiques. Alors, il y a une prolifération énorme qu'à part les salons, à Rome capitale ou autre, il y a des centaines d'œuvres. On les trouve aussi sur les murs, partout. Enfin, et bien souvent, ça reflète aussi des préoccupations contemporaines, immédiates, enfin, dans ces œuvres, à certains moments.
Oui, tout à fait. Mais je pense pas qu'on...
Moi, personnellement, c'est par incompétence totale sur le sujet que je me suis...
Non, mais je pense qu'en effet, il me semble que c'est le cas, mais je pense qu'on pourrait élargir cette observation, je pense, à tous les champs esthétiques. Enfin, je parlais tout à l'heure rapidement du roman français d'aujourd'hui, contemporain. Je pense qu'il y a énormément de jeunes romanciers, enfin, de jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, qui évoquent ces questions de la crise. Enfin, de Florence Aubenas à Manuel Carrère, en passant par je ne sais qui, enfin, Régis Jauffray, enfin, la liste pourrait être très très longue. Dans le cinéma documentaire, il y a évidemment une présence très très forte aussi de la question sociale qui est quand même très très présente. Alors, même si c'est un genre évidemment, comment dire, plutôt disons fragile, indépendant, parallèle, c'est vrai, moins dans la culture mainstream, certes, mais qui existe aussi. Et même dans le cinéma français, enfin, je veux dire, commercial, il y a aussi un peu... En creux, disons, je pense, la crise est présente. Elle n'est pas complètement absente de paysage, hein, je ne crois pas. Frédéric, un avis là-dessus ?
Non, mais enfin, comment dire ? Je crois que on n'a pas voulu rentrer dans tous les champs. On pourrait sans doute le faire. Enfin, en tout cas, Stanislas aurait pu le faire mieux que nous tous sur le théâtre. Comment dire ? Je pense qu'un système peut être en difficulté et paradoxalement, sa culture peut être vibrante. Donc ça renvoie aussi, d'une certaine manière, ça nous impose beaucoup d'humilité aussi sur ce qu'est la politique culturelle. À savoir que la production et les moyens de cette production, bon, enfin, on n'est pas forcément obligé d'être marxiste, on sait que ce n'est pas forcément la même chose.
D'autres questions ? Et le rêve américain que vous avez défini tous les trois, qu'est-ce que, à votre avis, on peut en essayer dans...
Pas moi.
Non, pas vous. Non, c'est vrai. Mais Frédéric en a parlé quand même. Vous disqualifiez ce terme même ?
Non, mais il me semble que, comme vous l'avez dit, les années de la crise sont une année, ce que vous avez dit, c'est un moment où on commence à déboulonner les mythes. Bon.
Moi, je ne crois pas, mais je ne crois pas pour une simple raison, c'est que je suis très profondément français et convaincu, pour le coup, que le modèle culturel américain n'est pas adapté à la France. Et donc, en aucun cas, j'ai jamais voulu défendre l'idée qu'il faudrait qu'on aille vers une américanisation, entre guillemets, du modèle culturel français, parce que le risque, c'est qu'on perdrait ce qu'on a et on n'aurait pas ce qu'ils ont. Parce que, sans entrer dans les détails, c'est un système qui n'est pas du tout comme le nôtre, pour plein de raisons. Et de ce point de vue, Roosevelt est presque un écran de fumée, puisqu'il nous fait croire que ça rapproche de nous. En fait, le système n'existe pas avec Roosevelt. Enfin, c'est une parenthèse qui se referme et qui ne laisse rien. Et pour une large part, le système, la politique culturelle américaine n'est pas gérée par l'État. Elle n'est même pas gérée par les villes, contrairement à ce qu'on croit, ou décentralisée. Elle est gérée par autre chose, qui s'appelle la société civile, qui n'est pas le marché, d'ailleurs. C'est autre chose encore. C'est-à-dire donc essentiellement des universités à but non lucratif, des entreprises marchandes, un système marketing très puissant, etc. Donc de ce point de vue, je ne crois pas que ce soit un système qui puisse être récupéré, même s'il y a de bons exemples, il y a sans doute de bonnes pratiques qu'on peut reprendre, il y en a aussi de mauvaises qu'il vaut mieux éviter de reprendre, mais il y en a aussi des bonnes chez nous qu'on peut peut-être leur proposer de regarder. Par contre, je pense que c'est un système qui est extrêmement puissant et qui perdurera et qui fait qu'à ce stade, je ne partage pas, mais pas une seule seconde, les analyses, par exemple, d'Emmanuel Todd sur le déclin de l'Amérique. C'est peut-être vrai dans certains secteurs, le problème bancaire est évident, mais en matière culturelle, je pense que le système est très puissant et qu'il le restera. En revanche, ce que je crois aussi, et je termine avec ça, c'est qu'ils ne seront plus les seuls. Et qu'il y a aujourd'hui d'autres pays, d'autres systèmes qui sont puissants. Et donc, il y aura une forme de multi, je dirais, polarité de la culture, beaucoup plus que ce n'est le cas depuis la Seconde Guerre mondiale, avec la montée très puissante de pays émergents et de leur culture, parce que les pays n'émergent pas simplement avec leur économie, leur démographie et leur billet de banque, qu'ils soient chinois, indiens, brésiliens, sud-africains ou autres, mais aussi avec leur culture et leurs médias, et notamment avec le numérique. Qui change la donne. Donc plusieurs pays, plusieurs cadres. La question qui se pose bien sûr pour nous, c'est les Américains seront puissants, d'autres pays seront également puissants, mais quid de nous là-dedans ? Et là, pour le coup, effectivement, je suis plus pessimiste pour des raisons toutes simples de rééquilibrage globaux qui sont que vous avez la France qui a une belle histoire, mais c'est un très petit pays à l'échelle du monde. Et même si elle reste très importante et influente, quoi qu'on puisse dire et parfois même quoi que je puisse moi-même dire, il n'empêche que c'est évident que ça ne peut pas être le seul phare de la culture du monde, contrairement à ce que croient encore un certain nombre de nos intellectuels, y compris sur France Culture, qui se battent avec moi régulièrement.
Bon, en même temps, regarde, aux Oscars, on a eu des cinémas français extrêmement bien représentés, ce qui n'est quand même pas non plus anodin. D'autres questions ? Bernard, vous vouliez rajouter un petit mot
ou... À propos de cette parenthèse refermée, c'est quand même un phénomène assez intéressant que cette période de la culture américaine, ou cet éveil de la culture américaine comme une culture ne dépendant pas de l'Europe dans les années 30, cet éveil à la fois d'une mémoire, d'une création, etc., même si, quels que soient les chefs-d'œuvre ou les chefs-d'œuvre ou la qualité des œuvres, aient été oubliés à ce point. Parce que, bon, vous avez dit qu'un certain nombre des créations architecturales avaient été conservées, avaient été transformées, mais il n'empêche qu'il y a eu, je ne sais pas combien, 2500 fresques créées dans des bureaux de poste, créées dans des bâtiments du ministère des Finances, et que tout ça a été complètement effacé, soit les fresques ont été littéralement effacées, des fresques créées par des artistes comme Ben Chan, les frères Pollock, et quelques autres. Les photos restent la partie la plus le plus connu, l'héritage photographique du New Deal, qui dépendait aussi d'un personnage intéressant qui s'appelait Rexford Tugwell, qui travaillait pour le ministère de l'Agriculture. C'est quelque chose qui subsiste, mais qui subsiste sous forme d'œuvre d'art et non pas sous la forme d'un inventaire de l'Amérique, ce qu'il était, où d'ailleurs on découvrait en effet les Indiens. Donc là-dessus, il y a une quand j'en ai reparlé là, pour lui demander ses DVD avec le réalisateur de ce documentaire sur le New Deal for Artists, la première chose à laquelle il a réagi, c'est ça, c'est à quel point il a eu la chance de pouvoir encore interroger les témoins et à quel point tout cela était totalement oublié à l'époque et reste complètement oublié aujourd'hui. Évidemment, il reste quelques noms, mais on sait qu'ils n'ont pas poursuivi dans cette ligne-là. Alors bon, pour parler des choses que je connais le mieux, les gens qui travaillaient dans le théâtre, soit se sont reconvertis, sont allés, ont traversé le pays, sont allés travailler à Hollywood. On peut difficilement dire que beaucoup d'entre eux ont poursuivi le travail d'innovation, de recherche, qu'ils avaient mené au théâtre, soit dans les années 30, soit au début des années 30 avec le théâtre politique, soit avec le Federal Theatre qui a duré quand même très très peu de temps, qui est une des institutions qui a duré le moins longtemps, où Ali Flanagan a été, bon, comme vous l'avez fait remarquer, a été viré très très rapidement, je crois que ça a duré 3 ans. Et là-dessus, on ne peut pas dire, bon, Nicolas Ray avait une phrase dans ses dernières années qui était les années après 68, où il avait le sentiment de retrouver peut-être quelque chose de l'atmosphère du début des années 30, d'une atmosphère très, très pugnace, peut-être certainement pas révolutionnaire, mais d'une atmosphère de révolte, en tout cas de rejet de la légalité existante. Nicolas Ray disait, de ma génération, 9 membres sur 10 de ma génération ont trahi. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire ? C'est une phrase qu'il n'a jamais expliquée, parce qu'il ne s'expliquait pas beaucoup, mais c'est un point intéressant sur l'abandon et l'oubli de ce qui a été les conquêtes du New Deal. Ça pouvait vouloir dire, bien entendu, trahi littéralement, c'est-à-dire témoigner devant la Commission des activités anti-américaines dans sa version guerre froide, avant même McCarthy, ou bien trahi leurs idéaux, ce qui était peut-être aussi ce qu'il pensait de lui-même, cinéaste, alors étant parti pour Hollywood et ayant dû faire des films qui étaient, selon lui-même, tous en grande partie des films compromis. Certains autres ont pu continuer à cause de leur succès, comme Kazan. Certains autres ont choisi une sorte de demi-exil, comme Orson Welles, ce qui a peut-être permis à ces deux-là de poursuivre d'une manière ou d'une autre ce qui avait été les visées, les buts. Il y a un très très beau film de Kazan sur les années 30 qui s'appelle Le fleuve sauvage, qui est vraiment un hommage à ce qu'a pu être sa jeunesse, ou qui n'est absolument pas un film autobiographique d'ailleurs. Ou bien Wells, qui a poursuivi un travail sur les formes et un travail sur la question démocratique, qui était aussi quelque chose de très très présent dans sa jeunesse et dans ses années, qu'il a poursuivi dans son activité totalement sporadique, faisant des films à l'occasion d'un pays à l'autre, d'une année à l'autre, quand on lui permettait, commençant à un endroit, terminant à l'autre, etc.
Si je peux juste ajouter un mot, effectivement, l'héritage des années 30 en littérature aussi est compliqué. Bon, d'une part, parce que il y a quand même le maccartisme qui décime une partie des rangs de l'extrême gauche. Il y a aussi le pacte germano-soviétique qui fait que de nombreux écrivains qui étaient proches du Parti communiste s'en détournent de manière très radicale. Et il y a aussi une évolution de la critique littéraire qui fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, pour diverses raisons, on commence à considérer les textes en eux-mêmes et donc en dehors de tout contexte historique, etc. Donc à partir de là, effectivement, les œuvres prolétariennes, bien évidemment, mais aussi des œuvres issues du Front populaire, sont considérées au mieux comme des documents, au pire comme des œuvres naïves, sentimentales, qui ne valent pas la peine d'être étudiées. Donc on ne les étudie plus dans les universités américaines, on n'étudie que les auteurs de ce qu'on appelle le modernisme anglo-saxon, donc James Joyce, Virginia Woolf, etc. que j'aime beaucoup par ailleurs. Et en fait, c'est intéressant de voir que nombre de ses œuvres vont être redécouvertes quand, dans les années 60 et 70, au moment des combats pour les droits civiques, pour les droits des femmes, pour les droits des homosexuels, c'est-à-dire au moment où d'autres récits alternatifs émergent et font ressurgir, à travers des maisons d'édition comme The Feminist Press, les récits alternatifs de la décennie des années 30. Donc c'est vraiment à ce moment-là que réémerge toute une partie de cette culture qui avait été enfouie pendant plus de deux décennies.
Merci. Bah, écoutez, je crois qu'on va conclure cette rencontre. Et merci à vous tous. Et puis, puisque nous subissons tous les conséquences de la crise, essayons de défendre au moins la cause de l'art. C'est toujours ça à apprendre. Merci beaucoup.